sont probablement plus de 120 000 les enfants venant de pays étrangers qui ont été adoptés en France ces dernières décennies. Les conditions de ces adoptions n'ont pas toujours été très claires, loin s'en faut. Des irrégularités, parfois bénignes, parfois beaucoup plus graves, ont fait l'objet d'une dénonciation constante et ancienne depuis des décennies, sans que ces difficultés soient véritablement résolues. En dépit de deux grands textes, la Convention internationale des droits de l'enfant en 89 et la Convention internationale spécifique consacrée à l'adoption internationale en 1993. Alors, à qui la faute ? À l'État ? Aux États, devrait-on dire, parce qu'il y a au moins deux États qui sont engagés dans l'adoption entre pays, comme disent les anglo-saxons. Mais ceux-ci, les États, sont sous la double pression, pression des candidats à l'adoption, d'une part, chez eux, et des intermédiaires, de l'autre, qui ne connaissent pas nécessairement. Sous la pression du marché également, tant certains se sont enrichis en exploitant la misère du Sud et le désir d'enfants du Nord. Ces enjeux ont été profondément renouvelés ces dernières années par l'entrée en scène des enfants nés à l'aéroport, comme on dit, c'est-à-dire ces enfants qui ont été adoptés, ils ont grandi, ils se sont organisés et sont aujourd'hui à même de porter eux-mêmes leurs revendications. Et ils réclament notamment l'accès à leurs origines, la vérité de leur histoire. Et pour cela, ils disposent de moyens nouveaux, comme les réseaux sociaux ou les tests ADN. Alors, comment réguler, comment moraliser l'adoption internationale ? C'est la question dont on va débattre ce soir à Esprit de Justice, en compagnie de Julie Sarah Foulon, qui est une enfant venant d'Éthiopie, une femme aujourd'hui, mais qui est arrivée en France étant enfant. Elle a été adoptée par une famille française. Et elle a raconté l'histoire de son adoption, de la découverte tardive des incohérences dans sa biographie, de ce qu'on lui avait raconté. Elle le consigne dans un récit intitulé Sarah et Tsega. Et avec elle, Yves Dénécher, professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Angers. Il est l'auteur du livre « Des enfants venus de loin, histoire de l'adoption internationale en France » chez Armand Collin en 2011. Et il s'est passé des choses depuis, comme on le verra. Et il vient avec Fabio Macedo de publier en février dernier, ou en janvier d'ailleurs, très récemment, une étude qui est en accès libre, une étude historique sur les pratiques illicites dans l'adoption internationale en France, c'est-à-dire si il est en plein dans notre sujet. Et enfin avec Olivier de Frouville, qui est professeur de droit public à l'Université de Paris 2, directeur du Centre de recherche sur les droits de l'homme et le droit humanitaire, et qui est membre, j'allais dire, qui est surtout ce soir membre du Comité des Nations Unies sur les disparitions forcées. Et Olivier de Frouville a joué un rôle central dans la récente déclaration commune sur l'adoption illégale de l'ONU en date du 29 septembre dernier.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Bonsoir à tous les trois. Ma première question va vers l'historien, nécessairement. Yves Dénécher, un phénomène récent, l'adoption internationale, ou un phénomène qui a parcouru tout le XXe siècle ?
L'adoption d'un enfant étranger est possible en France à partir de la loi de 1923.
Dont on va fêter le centenaire.
Le centenaire bientôt, lors d'un grand colloque qui aura lieu à Angers. Vous êtes tous invités. Mais effectivement, c'est après 1945 qu'il y a de premiers flux d'adoption internationale, venant notamment de l'Allemagne, qui était alors occupée par des troupes, par les soldats français. Et puis ensuite, il y a eu des flux un peu particuliers venant du Québec dans les années 60. Venant évidemment de Corée du Sud, à partir des années 60 également. Et c'est vraiment à partir de la fin des années 70 et dans les années 80 que l'adoption internationale devient un vrai phénomène de société, avec de grandes cohortes d'enfants qui arrivent chaque année en France.
Qu'est-ce qui explique ce tournant des années 70 ? Des phénomènes qui concernent aussi nos sociétés occidentales ?
Bien sûr. Et y a plusieurs facteurs, si vous voulez, qui entrent en ligne de compte. Le premier, c'est vraiment le développement du tiers-mondisme et de l'humanitaire, qui fait que pour quelqu'un comme Edmond Kayser, qui créait Terre des Hommes en 1960, eh bien, l'adoption internationale, c'est le moyen par excellence de sauver des enfants. Donc ce poids de l'humanitaire est considérable dans le développement de l'adoption internationale. Et puis c'est aussi un moyen pour des couples en mal d'enfants, je dis des couples, des personnes aussi, parce que ça peut évidemment être des personnes célibataires, parce que l'adoption internationale offre un espace des possibles pour faire famille, puisque cet espace est moins régulé que l'adoption de pupilles de l'État en France. Et donc, on va voir des gens qui n'ont pas forcément le nombre suffisant d'années de mariage ou pas forcément l'âge pour adopter, qui vont se tourner vers l'adoption internationale où les choses sont effectivement plus faciles.
C'est ça. Alors, c'est aussi un moment, d'ailleurs, où, avec la généralisation de la pilule contraceptive, avec les mères célibataires, c'est un phénomène où le rapport à l'enfant, comme on dit, change dans les pays du Nord.
Tout à fait, avec un peu une crise des ciseaux. C'est-à-dire qu'on a en France moins d'enfants adoptables et se développe une demande très forte dans les pays occidentaux qui va, de fait, aussi susciter et parfois même créer l'offre d'enfants adoptables à l'étranger.
C'est ça. Alors, Olivier de Trouville, on a parlé de la perspective des pays du Nord. Mais dans la perspective des pays du Sud, car ce sont souvent des pays du Sud, on y reviendra, il y a plusieurs vagues, mais ce sont des pays troublés, c'est des pays parfois secoués par la guerre civile. Eux aussi peuvent avoir de bonnes raisons de se débarrasser d'enfants.
Oui, ce qu'on constate, enfin ce qu'on a été amené à constater du point de vue de notre approche droits de l'homme, c'est qu'il y a dans un certain nombre de situations une conjonction entre des crises graves dans des pays qui sont liées à des conflits armés internes, qui sont liées à des dictatures, et le développement des phénomènes d'adoption sur le plan national, mais aussi avec des prolongements internationaux.
Oui. Il y a aussi des pays qui se sont débarrassés de leurs opposants. Je pense à tout ce qui concerne l'histoire du cône sud de l'Amérique latine, ou qui continue d'avoir d'ailleurs des répliques aujourd'hui, ce séisme de la manière dont on a utilisé les enfants, les proposant à l'adoption dans des familles saines, entre guillemets, parce qu'ils étaient enfants d'opposants.
Absolument. La pratique, peut-être, là où elle apparaît de manière la plus visible, c'est en Argentine, avec un phénomène massif de disparition forcée qui s'accompagne aussi de disparition d'enfants, soit d'enfants qui sont pris avec leurs parents, mais qui sont effectivement donnés pour adoption à des familles qui sont proches du régime, soit parfois des femmes aussi qui accouchent pendant leur disparition forcée, et les enfants sont pris, les femmes sont exécutées, les enfants sont pris et donnés à des proches du régime pour être élevés dans la bonne doctrine politique. Et ça, on le retrouve aussi, mais dans une période antérieure d'ailleurs, en Espagne.
Oui.
Mais avec un phénomène, disons, qui est apparu au jour...
Récemment. Une prise de conscience récente. Mais Julie, Sarah, Foulon, on parle de grands phénomènes sociaux, démographiques, du Nord, du Sud. C'est aussi des histoires individuelles, l'histoire de l'adoption.
Oui, tout à fait. Bien évidemment que... Enfin, moi, personnellement, j'ai été adoptée d'Éthiopie. Donc l'Éthiopie, pendant les années 80-90, a connu effectivement la guerre. En 2018, du coup, justement, elle a fait interdire l'adoption internationale. Le gouvernement éthiopien a fait interdire l'adoption internationale. Certains ont en effet été adoptés parce qu'ils étaient orphelins de père et de mère par des organismes d'adoption ou par des particuliers. Et d'autres, par exemple, comme c'est mon cas, j'ai été adoptée alors que je n'étais pas orpheline de père et de mère. Et ça, je l'ai découvert... beaucoup plus tard, malgré que j'avais souvenir que j'avais une mère, on a quand même réussi à faire en sorte que sur les papiers, mes parents ont été déclarés comme étant tous les deux décédés.
C'est ça. Alors, sur les papiers, Yves Denecher, c'est-à-dire, là, on rentre dans les tourments de cette adoption internationale parce que elle est le fruit nécessairement d'une chaîne d'intermédiaires entre les personnes qui sont sur le terrain, sur le pays, les intermédiaires du Sud, du Nord, les législations. Il y a beaucoup de gens qui interviennent dans une adoption internationale.
Dans le monde de l'adoption, il y a un certain nombre d'acteurs très différenciés, mais qui ont tous leur propre logique. Il y a les parents adoptants qui sont dans une logique de résultat, c'est trouver un enfant. il y a des interdits.
La fin justifie les moyens.
Alors, pas toujours, hein,
oui.
Loin de là, mais parfois. Il y a les OAA, les organismes autorisés pour l'adoption, qui sont des intermédiaires reconnus par l'État français. Il y a d'autres intermédiaires, associatifs ou individuels, qui, eux, sont plutôt dans une logique d'action, alors mue par toutes sortes de motivations qui peuvent être religieuses, humanitaires, idéologiques, etc. Et puis, il y a les États qui, eux, sont dans une logique de régulation du phénomène, au moins l'État français pour ce dont on parle aujourd'hui. Et chacun de ces acteurs-là joue, en fait, un peu avec les autres, en interaction. Et c'est ça ce qui crée, finalement, le phénomène de l'adoption internationale. L'étude qu'on a réalisée avec Fabio Macedo, elle montre, si vous voulez, que, en fait, ce dont Julie Sarah a parlé, c'est-à-dire des falsifications d'état civil, des faux et des usages de faux, et puis si on va dans l'autre sens, des irrégularités sur des visas d'entrée dans le pays, et si on va dans l'autre sens, des délits jusqu'à des crimes très graves de vol, d'achat d'enfants, etc. On a montré, en s'appuyant sur les archives, eh bien que ces pratiques illicites sont nombreuses, touchent de très nombreux pays, à de nombreuses époques, et que on a là, si vous voulez, une question qui interroge vraiment l'adoption internationale et tous les acteurs de cette adoption internationale.
C'est ça, Olivier Trouville, qui interroge parce que, comme on vient de l'entendre, dans quelques cas, j'espère que vous allez nous rassurer, dans quelques cas assez rares, il y a véritablement des crimes. Et vous représentez la France dans le comité sur les disparitions forcées. C'est-à-dire quand même que là, on parle de choses extrêmement graves.
Alors, je ne représente pas la France, je suis expert indépendant.
Oui, bien sûr.
Mais français, je suis expert français, voilà. Mais effectivement, on peut parler de disparition forcée. En fait, il faudrait une des choses à faire, une des choses qu'on pourrait faire, on passera aux recommandations tout à l'heure, je pense, mais c'est faire vraiment une cartographie assez précise des pratiques illicites. Donc, on va, de pratiques, effectivement, de falsification de documents, jusqu'à des choses qui s'assimilent à de la traite, et puis, effectivement, des crimes graves en droit international, disparition forcée, avec des qualifications qui peuvent être celles de génocide ou de crimes contre l'humanité. On a effectivement des pratiques très graves.
Bien sûr. Mais alors, ça veut dire, Yves Denecher, qu'il y a la question qui va se poser, je crois, qui inquiète tous les auditeurs, c'est de savoir, mais qui c'est quoi ? C'est-à-dire, comment est-ce que un État comme l'État français, alors bien sûr, il a des postes dans les pays, il a des ambassades, mais est-ce qu'il est au courant? Et est-ce que les règles traditionnelles des échanges internationaux, de la communication entre ambassades, est-ce que ça a fonctionné? Ou est-ce que c'est un domaine dans lequel elle a été assez molle, dira-t-on?
Alors, l'historien, c'est celui qui cherche à reconstruire le passé en remettant bien les choses dans leur contexte. Oui. Donc, si on parle du temps des pionniers de l'adoption internationale, en gros des années 50 jusqu'aux années 70, on est dans une organisation où il n'existe pas de normes, de règles, de droit international spécifique pour l'adoption internationale. Ça va être différent, évidemment, après la Convention de la Haye dont vous avez parlé et les années 90. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, la question de est-ce qu'on savait que ces pratiques existaient, l'étude qu'on a faite avec Fabio Macedo le prouve, le montre. Les archives.
C'est-à-dire, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a des graves irrégularités.
Depuis les années 60 et 70, les ambassadeurs de France en poste, les consuls de France en poste à l'étranger, mais aussi déjà la presse française, mais la presse aussi locale des pays de départ de ces enfants-là, font état et s'interrogent sur un certain nombre de pratiques et pointent du doigt très clairement des déviances. Donc, sur la question de savoir si on savait, si j'ose dire,
oui,
eh bien c'est clair qu'on savait, que tout le monde savait, que tous les acteurs de l'adoption internationale.
Mais est-ce que tout le monde savait tout ?
Alors après, c'est toujours la question de savoir... est-ce qu'on a affaire à un cas isolé, un cas particulier, ou est-ce qu'on a affaire à un dysfonctionnement qui touche l'ensemble du système? Ça, c'est une vraie question. Mais effectivement, la question de savoir si on savait, on savait. La question de savoir ce qu'on a fait, si c'était suffisant ou pas, ça, c'est une vraie question.
Et on va en reparler, mais Julie, Sarah Foulon,
oui.
Vous savez?
Oui, c'est ça. Enfin, nous, aujourd'hui, nous avons, depuis 2021, porté plainte contre un organisme d'adoption autorisé, par lequel, du coup, je suis passée, qui s'appelle Les Enfants de Reine de Miséricorde. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près une vingtaine, trentaine de personnes adoptées par cet organisme, et en plus des parents adoptifs, qui nous posons des questions. Et c'est vrai qu'on a pu regarder dans tous nos témoignages et dans tous nos dossiers que, par exemple, il y avait des parents adoptifs qui avaient signalé auprès de la DAS les problématiques qui étaient liées au fait qu'on avait des parents biologiques qui étaient vivants, qui n'étaient pas déclarés, que nos âges ont été changés. Il y avait du coup, il y a toutes ces problématiques et auprès également, il y a eu des signalements et auprès...
C'est ça, on ne vous a pas dit toute la vérité que vous avez, que beaucoup d'entre vous découvrent que dans le fond, il y avait des choses qui n'étaient pas conformes dans leur histoire. Il y avait des blancs et parfois des mensonges.
Exactement, je sais qu'il y a eu énormément de mensonges. Pour ma part, j'ai souvenir que j'ai été adoptée à l'âge de 6 ans. J'étais à l'orphelinat quand j'étais petite en Éthiopie et j'ai clairement le souvenir que quelqu'un m'a dit de dire qu'il ne fallait pas que je dise que ma mère était vivante. Mais moi, j'avais souvenir que cette mère était vivante. Donc quand je suis arrivée en France, j'ai dû pendant 3 ans ne rien dire à mes parents adoptifs qui croyaient véritablement qu'ils avaient affaire à des orphelines.
De garder un secret comme ça, c'est difficile.
Ah oui, surtout que quand on entend à table les pauvres orphelines. Et moi, je savais tout à fait que ma mère était là, mais que je ne devais rien dire. Donc c'est assez incroyable d'avoir affaire à tous ces mensonges, surtout quand on est petit. Enfin, j'ai l'impression que nos droits ont été vraiment bafoués et l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas présent.
Alors, c'est ça, on va y revenir sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Surtout que vous êtes dans une situation qui est assez particulière parce que vous êtes adopté. En principe, vous devez être reconnaissant, vous êtes dans un conflit de loyauté entre ses parents qui vous ont accueilli et puis le souvenir de ce qui s'est passé, surtout quelqu'un comme vous qui est parti à 7 ans, de ce qui se passait dans la vie d'avant.
Oui, tout à fait. Quand j'ai rencontré mes parents adoptifs, j'ai bien vu que c'était des personnes tout à fait innocentes et qui étaient très heureux d'accueillir ma petite sœur et moi-même. Mais j'ai tout de suite compris qu'ils ne savaient pas. J'ai compris vraiment que mes parents adoptifs ne savaient pas et à partir de ce moment-là, on ne savait pas vers qui se tourner. Donc bien évidemment, mes parents, dès que j'ai dit la vérité sur ma mère, ils se sont directement tournés vers l'organisme d'adoption autorisé. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu le retour nécessaire et l'aide nécessaire de cette OAA du moins. Et du coup, on était en train d'essayer de faire passer ma mère biologique en disant « c'est une tante ». Et puis par la suite, j'ai découvert que c'était quelque chose qui était... assez systémique de faire passer souvent des mères pour des tantes, dire que les deux parents j'ai eu affaire vraiment après la sortie de mon livre Sarah et Tsega, j'ai eu affaire à beaucoup de témoignages
qui ont vu que votre histoire n'était pas singulière. Vous la partagez avec beaucoup d'autres.
Tout à fait, moi quand j'ai écrit le livre c'était que j'avais 22 ans, aujourd'hui j'en ai 25. J'ai sorti le livre avec innocence en me disant les difficultés qu'on a rencontrées avec mes parents adoptifs, est-ce qu'on est les seuls? Vraiment, j'ai écrit ce livre avec beaucoup d'innocence. Et en fait, quand le livre est sorti en 2020, lors du confinement, j'ai eu des retours de personnes qui sont venues vers moi en m'expliquant leur histoire, en me disant, c'est là où j'ai compris que mon histoire n'était pas du tout particulière. Et ce qui était assez incroyable, c'est que les réseaux sociaux ont su nous unir. Et en fait, on a tous partagé nos histoires, on a osé parler.
Et qui va changer beaucoup de choses, on va le voir tout à l'heure, Olivier de Fauville.
Oui, non, juste pour peut-être rebondir sur ça, c'est vrai qu'il y a une grande diversité de cas de figure. Mmh. En fait, je pense qu'il faut vraiment écouter les victimes, chacune d'entre elles, dans leur histoire particulière. Il y a ce type de cas qu'on rencontre assez souvent, où des personnes ont vraiment été abusées, conduites à signer des documents en étant trompées, en réalité, sur leur destination. Parfois, on les trompe aussi en proposant de mettre leurs enfants dans des institutions qui sont d'ailleurs régies par l'État. Et puis, il y a vraiment les cas de vol de bébés. Par exemple, on a beaucoup de récits, et dans de nombreux pays, avec un schéma récurrent de vol de bébés à la maternité. Donc où des femmes en fait se voient enlever leur bébé à la naissance et puis on revient vers elles en leur disant après « votre bébé est mort, est-ce que je peux voir le corps ?»« Ah non, on l'a déjà enterré dans une fosse commune. » Donc il faut voir l'ensemble de ces cas de figure avec ces histoires très douloureuses. Puis vous posiez peut-être une question sur l'ampleur du phénomène, combien en fait, quelle est la proportion des adoptions qui trouvent leur origine dans une pratique illicite. Il faudrait faire une enquête évidemment plus exhaustive sur ce point, mais il y a un indicateur, en tout cas une corrélation possible quand on regarde la courbe du nombre d'adoptions internationales. générale, elle décroît considérablement après l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye, qui a pour vocation de régir l'adoption internationale conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant et qui fixe un certain nombre de garanties. Alors, si le nombre, au fond, de pratiques illicites diminue, on voit aussi que la courbe du nombre d'adoptions internationales diminue. On peut peut-être penser qu'il y a une corrélation entre le nombre d'adoptions internationales et les pratiques illicites.
L'historien, vous avez beaucoup travaillé cette question-là, Yves Denecher, sur les chiffres.
Sur les chiffres, alors, c'est aujourd'hui impossible à dire.
Ah bon.
Et ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. C'est que le cas de Julie Sarah le montre très bien. C'est qu'il faudrait pouvoir examiner chacune des 120 000 adoptions. Nous, on a établi ce chiffre-là, 120 000 adoptions internationales depuis les années 40, les années 50. Nous, ce qu'on a vraiment voulu faire dans notre étude, c'est justement ne pas généraliser. C'est-à-dire que on peut l'affirmer qu'il y en a eu beaucoup dans de nombreux pays, à de nombreuses périodes. On a déjà évoqué quelques pays, mais on peut parler du Guatemala dans les années 80-90, du Népal dans les années 2000. Enfin, la liste pourrait être longue.
Du Mali,
évidemment, et du Brésil dans les années 80. Donc la liste serait très longue. Et après, je pense qu'il y a une entrée qui serait intéressante, c'est celle de risque, en fait. C'est-à-dire, si on a été adopté dans tel pays à telle période, il y a un risque important qu'il y ait pu avoir, j'emploie le conditionnel, des pratiques illicites. Dans tel autre, beaucoup moins. Mais donner un chiffre...
C'est impossible.
Non, objectivement, c'est pas possible pour l'instant.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand? Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption, je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Esprit de Justice qui continue de se demander comment est-ce qu'on peut moraliser l'adoption internationale en compagnie d'un historien Yves Denecher, d'un juriste Olivier de Fourville et de Julie Sarah Foulon, elle-même enfant adoptée. Julie Sarah Foulon qui a choisi de nous faire entendre cette chanson de Gaël Faye, petit pays, Julie. Sarah Foulon.
Oui, Gaël Faye, ce n'est pas une personne adoptée, mais j'ai lu son livre du coup, qui s'appelle également Petit Pays, et j'ai trouvé que le lien qu'il a avec son pays d'origine est vraiment relié à nos histoires de personnes adoptées.
C'est ça, c'est des histoires de déplacement.
Tout à fait.
Et à travers le monde.
C'est ça.
Alors, il y a un mystère pour moi, mais probablement pas pour l'historien que vous êtes, Yves Denecher, c'est que vous nous dites en même temps, il y a des pratiques illégales qu'on a du mal à quantifier, pas toutes, bien sûr que non. Il y a une information qui est, dans le fond, très ancienne, une indignation aussi qui est très ancienne. Et que se passe-t-il? ou plus exactement, pour être plus cru, pourquoi il ne se passe pas grand-chose?
Parce que chacun des acteurs dont j'ai parlé, finalement, participe à la continuation, en fait, d'un phénomène social dans lequel chacun trouve son intérêt. On a parlé tout à l'heure de l'intérêt de l'enfant, on pourra peut-être y revenir, mais chacun des acteurs trouve son intérêt. On a parlé tout à l'heure de certains pays de départ, eh bien, qui se satisfont tout à fait d'envoyer des enfants comme ça à l'adoption internationale. En France, on a parlé de la demande d'enfants de la part de personnes qui n'en ont pas. Donc, il y a ces différentes logiques et tout le monde a intérêt à finalement ce que le phénomène perdure. Et puis, il y a aussi le phénomène des pressions. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui se passe mal dans l'adoption internationale dans un pays, quand l'État français veut prendre une position, eh bien, il se retrouve face aux autres acteurs qui font pression, parfois en disant « mais non, il faut continuer à ce qu'on puisse adopter dans ce pays-là, on a des adoptions qui sont en cours, etc. »
Il faut les continuer, il faut les mener.
Oui, tout à fait. Et puis, y a aussi le discours. Alors ça dépend, plus dans les années 80 encore que dans les années 2000, évidemment, mais il y a encore le discours humanitaire aussi. C'est-à-dire...
ça rend service.
Si on ne fait pas ça pour les enfants, qu'est-ce que ces enfants vont devenir? Et puis... ce qu'on a montré, nous, dans le rapport, et il faut bien voir comment, avec Fabio Macedo, on l'a construit. Ça veut dire qu'on a regardé des archives et on a dit, voilà, dans tel carton d'archives, voilà ce qu'on trouve. Mais on n'a pas tout écrit. Loin de là. Quand sur un carton d'archives, on écrit 10 lignes, c'est pour dire, voilà ce qu'on peut en tirer comme substantifique moelle. Mais il y a de nombreux documents qui montrent des interventions d'hommes et de femmes politiques, d'élus... Qui veulent faire en sorte que...
C'est aussi une des difficultés, c'est qu'il y a aussi beaucoup de familles adoptantes parmi ces élus, parmi ces journalistes, parmi ces leaders d'opinion.
Et on est clairement face à une, communauté qui est très militante et très active.
Vous opinez du chef aussi, Julie Sarah.
Oui, bien sûr. Enfin, pour parler, je sais que l'organisme par lequel, en tout cas, mes parents sont passés, c'est un organisme du coup qui est catholique et qui est principalement tenu par des parents adoptifs. Donc, bien évidemment, que je pense que il y a une certaine pression que peuvent parfois mettre des parents adoptifs parce qu'ils ont difficulté à avoir des enfants, ils ont tout essayé, c'est compliqué pour eux, donc bien évidemment que certains organismes...
C'est ce qu'il y a de plus profond dans un couple ou pour une personne, c'est la transmission, c'est son inscription dans le monde.
Oui, bien sûr, aujourd'hui dans la société, avoir un enfant est un peu une victoire, une sorte de réussite de vie. Si on n'a pas d'enfant, c'est compliqué. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense sincèrement que... Il y a certains organismes d'adoption autorisés qui sont quand même agréés par l'État. Ce sont des personnes, il ne faut pas oublier que ce sont des bénévoles qui sont à la tête de ces organismes. Il faut peut-être un peu plus contrôler.
Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont fait mieux que la France, Olivier de Trouville, dans le panorama que vous avez fait?
Ouais, enfin, ce qui est frappant, c'est qu'il y a vraiment une question générationnelle. Il y a des personnes qui arrivent à l'âge de 30 ans, 40 ans, qui ont eux-mêmes des enfants, qui grandissent un peu, qui se posent des questions à leurs parents sur leurs origines. Et souvent, c'est un élément déclencheur pour ces parents qui eux-mêmes vont partir à la recherche de leurs origines et vont s'apercevoir qu'il y a des incohérences, en fait, dans leur dossier. Et c'est vrai que c'est, en fait, c'est même pas 10 dernières années, hein, c'est 5 dernières années, il y a eu une série de démarches qui ont été faites par des associations de victimes et qui ont conduit à des mises en cause, y compris sur le plan institutionnel. On peut penser à la Suisse, dont on peut dire pour l'instant, enfin en tout cas, qu'elle est largement en avance sur la France, puisqu'elle a,
oui,
elle a commencé...
Et puis aussi, il y a des pays, j'allais dire, d'où viennent les enfants, comme la Corée, qui ont apporté un soin particulier à faire les choses dans les formes.
Alors, non, je ne dirais pas ça pour la République de Corée.
Non, je crois
il y a une commission, effectivement, vérité, mais qui porte sur l'ensemble des exactions des différents régimes qui se sont succédés. Mais actuellement, la question des adoptions, question commence à être soulevée par un certain nombre d'adoptés au Danemark, mais aussi en France, mais reste encore largement ignorée, surtout dans ces causes d'ailleurs. Hein. Oui. Il y a une dimension là aussi très politique en Corée qui est assez peu...
Oui, et puis on touche là aussi, quoi. C'est multicausal, j'imagine. Je vois que vous opinez.
Alors, il y a une dimension politique parce qu'il y a une dimension eugénique en, fait, oui. en Corée qui est assez particulière. Aussi.
Je vois Julie, Sarah, Foulon hocher de la tête, c'est votre histoire ça.
Oui, tout à fait.
D'avoir grandi.
Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, les personnes adoptées se posent des questions. Et justement, quoi, j'entends parler de la Suisse et également le pays, des Pays-Bas qui, eux, se sont excusés et reconnu ces adoptions illégales dans leur pays. Et c'est suite à ça que d'ailleurs, qu'avec un collectif qui s'appelle RAIF, qui est pour la reconnaissance des adoptions illicites, en 2021, on avait lancé une pétition qui demande au gouvernement, du coup, l'ouverture d'une commission d'enquête qui nous a été d'ailleurs accordée depuis le 8 novembre.
Là, très récemment.
Exactement.
C'est ça. Yves Denecher.
Sauf que ce n'est pas une commission d'enquête, mais une commission d'inspection interministérielle.
Tout à fait. À l'époque, c'est ce qu'on avait demandé.
Voilà. Mais... voilà, voilà. Donc c'est très différent des cas dont on vient de parler, que ce soit la Suisse ou l'Irlande ou le Danemark.
Qui ont fait un véritable travail d'histoire.
Voilà. Oui, puis pas que d'histoire, un travail politique aussi.
C'est ça.
Là, effectivement, ce n'est pas une commission d'enquête, c'est une commission d'inspection interministérielle qui a donc quand même de très larges pouvoirs sur trois ministères, donc trois administrations, etc. On va voir ce qui va évidemment en sortir. Mais je reviens sur ce qu'a dit Olivier de Frouville et Julie Sarah, parce que c'est essentiel en fait. C'est que la seule grande nouveauté dans le paysage de l'adoption internationale depuis les 25 dernières années, c'est l'apparition d'un nouvel acteur, qui sont les personnes adoptées elles-mêmes. Et donc, cette nouveauté-là, elle n'a pas toujours été suffisamment prise en compte par les autres acteurs.
D'ailleurs, vous l'annoncez à la fin de votre livre, Yves Denecher, qui date de 2011, c'est ce que je rappelais. À la fin, vous terminez en disant, oui, mais il y a quelque chose qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce que vont dire les intéressés eux-mêmes?
Eh bien, maintenant, on sait. Voilà. Maintenant, on sait. Ces personnes-là jouent un rôle essentiel. Et il faut les entendre. Il faut évidemment tenir compte. Et c'est quand même... des personnes adoptées elles-mêmes, qu'est venu finalement le fait que des juristes, des historiens, des sociologues, des chercheurs s'intéressent aussi à ces pratiques illicites, vraiment. Parce que, comme vous dites, ça fait 10 ans, 12 ans que c'était déjà écrit, etc. Mais néanmoins, ces éléments-là, on sait bien que ça arrive souvent avec une actualité. Et là, ça y est, on est dans cette actualité-là. Et il est temps que tous les acteurs regardent ça en face et prennent un certain nombre de décisions.
Alors... Oui, d'ailleurs, on a tendance à nous infantiliser en nous appelant les enfants adoptés. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes devenus des adultes, des citoyens français aptes à expliquer ce qui nous est arrivé et ce dont les personnes adoptées ont besoin aujourd'hui.
Vous vous sentez victime? Parce que Olivier de Fréville, quand il a parlé de phénomène, il parlait de victime. Vous vous sentez victime, vous, Julie Sarah Foulon?
Alors moi, dans mon cas, je ne me considère pas comme étant une victime, parce que je considère que mes parents adoptifs ont été trompés, que ma mère biologique n'a pas eu un consentement éclairé sur notre adoption. Et puis pour ma part, je pense plus qu'il y a eu des conséquences psychologiques sur moi, sur le fait que mon adoption partait d'un mensonge. Par contre, après, pour d'autres personnes adoptées, bien évidemment, ils doivent peut-être avoir un statut de victime.
C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous demandez? Alors, vous représentez, Julie Sarah Foulon, vous représentez finalement un nouvel acteur qui change tout, parce que vous n'êtes pas victime, vous venez de le dire, vous êtes militante, vous vous battez pour faire reconnaître des droits, ce que vous considérez comme des droits qui sont propres à beaucoup d'enfants adoptés.
Oui, bien sûr. Après, moi, je déteste le mot militante pour ma part.
Ouais,
je considère en tout cas qu'on a des droits. Il y a certains droits qui ont été bafoués. Et aujourd'hui, il faut quand même mettre l'intérêt supérieur de l'enfant.
Qu'est-ce que vous demandez?
Aujourd'hui, les adoptés, en tout cas, ce qu'ils demandent, c'est une reconnaissance des faits. De se dire que ces irrégularités, ces adoptions illicites, ces adoptions illégales ont eu lieu. Et il faut qu'aujourd'hui, la France permette, aujourd'hui, il faut qu'elle dise qu'en effet, ça s'est passé. Et nous, on a besoin d'entendre ça. Ensuite, au niveau de la recherche des origines, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est beaucoup d'enfants adoptés savent très bien qu'ils ont une famille biologique qui est vivante quelque part partout dans le monde. Et aujourd'hui, tout ce qu'ils demandent, c'est à l'État, peut-être que l'État puisse créer une infrastructure ou quelque chose comme ça qui leur permette de les aider dans leur RDO, qui est la recherche des origines.
Et la reconnaissance, elle passe par justement l'ensemble des acteurs. Pendant qu'on faisait ce travail avec Fabio Macedo, un certain nombre d'acteurs nous ont dit n'avoir jamais été au courant de pratiques illicites, ils pensaient que ça n'existait pas, etc. C'est ni raisonnable ni tenable. On a passé à un autre stade désormais.
Oui, c'est ça.
Il faut que chacun regarde ça en face et qu'on arrive à une reconnaissance. L'État a un rôle essentiel à jouer là-dedans, les autres acteurs aussi. Et j'insiste bien sur la question qu'il ne s'agit pas de généraliser et de dire que tous les parents adoptants sont fautifs. Il n'en est évidemment pas question. Un certain nombre d'entre eux, évidemment, sont des victimes. D'autres ont fait des choses en toute connaissance de cause aussi. Je pense qu'on peut le dire sans forcément froisser ou choquer. Et c'est la même chose du côté des OA. Il y en a qui ont très bien fait leur travail, il y en a qui ont moins bien fait leur travail, et il y en a qui ont mal fait leur travail. Eh bien, il faut regarder ça en face. Et tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a documenté va de toute façon dans ce sens. Et après la reconnaissance, viendra peut-être le temps effectivement d'action pour répondre aux besoins des personnes adoptées.
Le droit à la vérité, Olivier Trouville, vous qu'enseignez les droits de l'homme, ça vous parle, j'imagine?
Oui, ça me parle. Et justement, c'est ce que je voulais peut-être ajouter du point de vue du juriste, et notamment sur la qualité de victime. Je pense qu'il y a quelque chose d'éminemment subjectif. Il y a aussi quelque chose d'objectif qui est la qualification du droit. Et donc, à partir du moment où il y a une pratique illicite, ou une personne qui a été lésée par cette pratique illicite, elle est victime. Après, elle peut revendiquer ou pas. Elle peut choisir de revendiquer sa qualité de victime.
Et puis, elle peut sortir de cet état de victime, cette condition pour reprendre
la
parole.
Elle peut, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a, des obligations, les États. Et ça, faut pas l'oublier. Donc, il y a un cadre de droit international qui est assez précis. Encore une fois, il y a des pratiques qui sont différentes, qui relèvent de qualifications différentes. Mais si on parle, par exemple, des disparitions forcées ou des crimes contre l'humanité, il y a des obligations très, très strictes. Et notamment, il y a effectivement, comme vous le dites, un droit à la vérité. Nous l'avons d'ailleurs réaffirmé dans la déclaration conjointe des Nations Unies. Nous avons dit que les personnes qui avaient été victimes de pratiques illicites d'adoption internationale avaient le droit à la vérité.
C'est très intéressant, ce droit à la vérité, parce que c'est un droit nouveau qui a été consacré récemment et dans lequel, d'ailleurs, il y a des juridictions argentines qui ont poussé. Ça veut dire que la justice est affaire de vérité, au-delà même de la punition des uns ou des autres.
Alors, le droit à la vérité peut se réaliser par la justice, mais aussi par d'autres moyens, par exemple une commission d'enquête qui établirait les faits de manière exhaustive sur les différentes pratiques dans différents pays. Une commission internationale ou des commissions nationales pourraient établir la vérité. Il y a aussi une autre dimension, effectivement, qui est la vérité judiciaire, à travers des enquêtes judiciaires sur la base de plaintes pénales, ou d'ailleurs, ce qui est très important de préciser, c'est qu'il ne faut pas que les États attendent qu'il y ait des plaintes. Oui. Les États ont l'obligation d'enquêter. À partir du moment où il y a
c'est souligné aussi dans la déclaration.
Dans la déclaration, nous avons rappelé qu'à partir du moment où il y a un soupçon de violation grave du droit international, les États ont une obligation de lancer des enquêtes de manière spontanée.
Et puis de punir. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous, Julie Sarah Foulon, le droit à la vérité aujourd'hui, concrètement?
Oui, aujourd'hui, de toute façon, on est tous en quête de vérité. Tout simplement, on n'est pas là à vouloir condamner telle institution. On n'est pas
une
dans...
vérité objective.
Exactement, c'est une vérité objective. C'est qu'on comprenne ce qui s'est passé dans notre dossier, qui a fait quoi, comment ça se fait qu'aujourd'hui, nos familles biologiques sont inexistantes. Par exemple, je prends l'exemple encore une fois de l'Éthiopie. L'Éthiopie connaît que l'adoption simple. C'est-à-dire que dans la loi éthiopienne, c'est l'adoption simple, c'est celle qui fait garder la filiation avec la famille biologique.
Mais
une fois qu'on arrive sur le territoire français, nous passons devant un juge et nous sommes en adoption plénière. C'est-à-dire que ça coupe tout lien avec notre famille biologique. Donc ça, c'est aussi au niveau du droit aujourd'hui.
C'est une époque aussi, ça, Yves Denecher, vous le dites bien dans votre livre. C'est l'époque dans laquelle on conçoit l'adoption comme une rupture radicale, avec la famille naturelle. Et aujourd'hui, on n'a plus cette même perception des choses.
Je ne sais pas si on n'a plus la même perception des choses, mais ce qui est sûr, c'est que toute l'histoire de l'adoption est frappée avec ce saut-là. C'est-à-dire qu'en 1923, on peut adopter un mineur, mais il n'y a pas rupture avec la famille biologique, et donc cette adoption, elle ne va pas marcher. En 1939, on garde cette adoption qui serait l'adoption simple d'aujourd'hui, pour aller vite, et on crée une légitimation adoptive où on peut commencer à rompre les liens avec la famille d'origine. Ça a marché qu'à moitié. Et puis on arrive à la loi de 66, où là il y a l'adoption simple d'un côté, l'adoption plénière, et là c'est l'adoption plénière qui évidemment va se développer beaucoup, notamment dans cette adoption internationale, où finalement les adoptants étaient en quête d'enfants sans mémoire, oui, sans histoire,
avec des,
d'enfants vierges de toute histoire personnelle.
Avec ce...
Et effectivement, que l'adoption internationale a été propice à...
Vous rappelez le mythe de l'avion cigogne qui amène l'enfant, et qui amène l'enfant comme ça, comme par enchantement.
Oui, c'est un enchantement qui coûte cher, hein, quand même, en termes de trous.
Tout à fait. Et puis... Et puis, il faut se rendre compte quand même qu'il y a pas, il y a aujourd'hui, on met toujours en valeur le fait que les parents adoptifs sont extrêmement préparés, ils sont suivis psychologiquement, etc. Mais il faut savoir que nous, les adoptés, en tout cas pour notre part, la plupart que nous avons été adoptés d'Éthiopie, on nous a pas préparés. C'est-à-dire qu'on est arrivé à l'aéroport.
Oui. Vous pensiez que vous alliez en Amérique ?
Tout à fait. Moi, je commence mon livre août 2003. Notre mère disait vrai, nous voilà en Amérique. Parce qu'on m'a dit que j'allais partir en Amérique et que j'allais revenir. Donc il n'y a aucune explication sur le fait que moi, quand j'ai vu mes parents, je ne savais pas. Je me disais, mais qui sont ces deux blancs? Aujourd'hui, j'en rigole. J'adore mes parents, il n'y a aucun problème. Ils n'étaient pas au courant. Mais il faut savoir que c'est extrêmement sauvage. C'est-à-dire qu'on passe d'un pays tel que l'Éthiopie à la France. J'arrive dans une campagne, où il y a quand même très peu d'habitants, où je suis la seule noire, je ne parle pas la langue. Peut-être que ça aussi, c'est un reproche que je peux faire, c'est que vu qu'on ne parle pas la même langue, j'aurais été peut-être apte d'expliquer ce qui s'était passé avant, si on m'avait mis une assistante sociale ou quelque chose comme ça qui parlait amharique. J'aurais peut-être expliqué tout de suite.
Mais aujourd'hui, vous avez perdu l'amharique et pour communiquer avec votre famille, vous ne pouvez plus communiquer dans la langue qui était celle de votre peuple.
Tout à fait. Aujourd'hui, je communique avec ma mère biologique via une femme de la diaspora éthiopienne qui parle du coup français, anglais et amharique.
Dans mon village, j'élève tendrement. Dans mon village, cinq tout petits enfants, cinq orphelins d'ici de là, qui s'ennuyaient seuls ici-bas. Et j'ai voulu qu'il soit choyé dans un foyer. Dans mon village, tous cinq ils m'aimeront. Dans mon village, tous cinq ils grandiront. Et comme moi, je sais qu'un jour ils chanteront les deux amours, ce beau village et puis celui de leur pays. L'un d'eux est couleur de la nuit, les deux autres sont de celle du jour. Le quatrième est couleur du sang, le dernier couleur du soleil, mais tous les cinq sont mes enfants. Et mon cœur de maman les aime tous autant.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Si mon village pouvait servir un jour de témoignage et symbole.
Beaucoup des auditeurs auront reconnu un air de Joséphine Baker dans Mon Village, qui était le choix musical d'Yves Denecher, historien, qui nous parle de l'adoption internationale.
Oui, parce que Joséphine Baker, si vous voulez, alors là, c'est une édition du début, de sans doute de 57 ou 58, c'est-à-dire quand elle a 5 enfants, mais en fait, elle en aura 12. Hein.
Ah oui. Elle va adopter 12 enfants.
Voilà, avec un vrai idéal de fraternité universelle derrière, avec justement cette idée de faire en sorte que chacun de ses enfants puisse continuer à avoir des références de sa religion d'origine, de sa culture d'origine, etc. Enfin bon, donc vraiment quelque chose de tout à fait intéressant à analyser sur un plan historique. Et donc, Joséphine Baker, dans les années 50-60, elle n'est pas pour rien dans la popularisation, si vous voulez, aussi, de l'adoption internationale. Mais ces adoptions internationales de Joséphine Baker, à un moment où il n'y avait aucune norme, aucune règle, aucun cadre, etc., bah évidemment que ses 12 enfants, elle a pu les ramener en France parce qu'elle était Joséphine Baker, et que tout ça s'est pas fait, j'allais dire, sur un plan éthique et normatif, si vous voulez, dans les règles. Alors, ça, c'est sûr.
Alors, aucune règle, aucune loi, Olivier de Frouville, il y a eu quand même deux instruments majeurs qui ont été la Convention internationale des droits de l'enfant en 1989, un texte majeur dans la conception et du droit et des droits de l'homme et de l'enfant. Et puis on a eu ensuite une convention spécifique en 1993, et vous avez beaucoup travaillé en tant qu'expert indépendant pour qu'il y ait une déclaration commune pour lutter contre l'adoption illégale.
Oui, c'est-à-dire que la Convention des droits de l'enfant a fixé un certain nombre de principes fondamentaux, notamment le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les situations d'adoption, le principe du consentement, le principe de l'interdiction des avantages indus, des bénéfices indus dans le cadre de l'adoption, et puis aussi le principe de subsidiarité.
C'est-à-dire, on peut pas faire d'argent avec les enfants.
Non. Voilà,
c'est
parce que dès qu'il y a de l'argent, il y a du commerce, en fait.
C'est ça.
Hein, voilà. Et en fait, c'est ce à quoi c'est transformé, en fait. C'est en une sorte de commerce. Et la Convention de La Haye, alors, est intervenue, a été négociée à la fin des années 80, début des années 90, précisément parce que déjà dans les années 80, il y a un certain nombre de scandales d'adoption qui ont éclaté, et donc qui ont alerté les États, et d'où cette idée de mettre en œuvre, à travers la coopération internationale, les principes de la Convention des droits de l'enfant. Alors, bon, ça a permis, effectivement, de réguler. On voit cette courbe hein, de nombre d'adoptions qui descend, ce qui montre que les irrégularités qui étaient à l'origine de ces adoptions ont en partie pu être évitées, mais en partie seulement. Cela dit, on manquait quand même, à travers cette convention de La Haye, d'une approche véritablement fondée sur les droits de l'homme. C'est-à-dire que l'approche initiale de la convention des droits de l'enfant avait un petit peu perdu de vue entre-temps.
Et alors là, dans cet instrument juridique, cet instrument, oui, international, il y a quelque chose qui revient tout le temps, ça m'a beaucoup surpris, c'est le droit de l'enfant à l'identité.
Oui,
un droit fondamental à l'identité.
Oui, qu'on peut d'ailleurs classer comme une composante du droit à la vérité. C'est pas seulement le droit à la vérité, hein, c'est aussi la vérité sur les circonstances de l'adoption. Mais la question d'identité est absolument fondamentale lorsque on parle de ce... Et en particulier pour les adoptions internationales, parce que précisément, on a des gens qui perdent leur identité, pas simplement parce qu'on falsifie leur identité, c'est-à-dire qu'on va leur créer un nouveau nom et on va les vendre sous une entité falsifiée, parfois en les attribuant à des mères qui n'existent pas, etc., à des faux états civils, mais aussi parce qu'on les transporte d'une culture à l'autre aussi. Et il y a une sorte de déracinement là qui s'opère et qui a des circonstances traumatiques à long terme et parfois refoulées pendant très longtemps puisque les enfants sont petits, ils ne se rendent pas compte.
Julie, Sarah Foulon, un droit à l'identité.
Oui, bien sûr. Je voudrais revenir justement sur le terme de déracinement qui n'est pas assez pris en considération. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle par exemple d'adoption nationale, en fait, une personne adoptée en France, elle garde sa culture. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir sur le fait aussi que l'adoption nationale, il n'y a pas de transaction d'argent. Hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi que tout se passe bien et il n'y a pas de commerce. Et bien sûr qu'il y a un certain déracinement et ça, il faut le prendre en compte parce qu'aujourd'hui, les personnes adoptées, le corps médical... ne met pas assez de moyens au niveau des psychologues, des psychiatres, etc. pour aider les personnes adoptées dans leur mot MAUX dû au déracinement.
Dans votre livre, Julie, Sarah Poulon, dans votre livre, on voit bien que vous êtes suivie par des psychologues et avec lesquels ça se passe pas très bien. Ça se passe très bien avec une éducatrice qui est, elle, beaucoup plus directe. Mais ça veut dire que finalement, votre... vous reprochez aux personnes qui vous ont prises en charge de ne pas tenir compte de ce phénomène qui était essentiel pour vous, ça traverse tout votre récit, qui était cette question de l'identité.
Oui, tout à fait. Quand j'étais beaucoup plus jeune, on a parlé de crise d'adolescence, bien évidemment qu'on vit tous des crises d'adolescence, mais par contre, une crise d'adolescence qui est liée à une crise identitaire, elle est très viscérale, elle est très problématique, et puis parfois, elle pousse jusqu'au suicide, parce qu'on n'a plus de boussole, on ne sait plus, on ne sait pas qui on est, quelle est notre place. Donc ça, c'est quelque chose qu'il fallait prendre en compte, et je sais que les psychologues, les psychiatres, tout ce que j'ai pu voir, ils n'ont pas su mettre un mot sur ce que j'avais. Donc il était question de me mener à droite à gauche. Mes parents adoptifs, ils essayaient de faire tout ce qu'ils pouvaient, mais ils comprenaient que, enfin, personne ne comprenait véritablement mon problème, qui était le déracinement et tous ces mensonges.
Vous opinez de la tête, Yves Denecher, c'est quelque chose que vous avez souvent rencontré dans vos enquêtes.
Mais oui, et puis on revient aussi à peut-être ce qui va être un élément essentiel et fondamental de la situation actuelle et des évolutions là qu'on appelle tous de nos voeux, c'est-à-dire de véritablement prendre en compte la parole de ces personnes adoptées qui aujourd'hui ne sont plus simplement dans le récit de leur histoire, mais elles sont aussi dans, j'allais dire, elles apportent une contribution à la connaissance vraiment de ce qu'est l'adoption internationale en tant que phénomène.
Ce que vient de nous dire Julie Sarah.
Oui, et puis il y en a d'autres qui insistent beaucoup sur la dimension racisée des personnes adoptées, d'autres qui insistent beaucoup sur la dimension coloniale, postcoloniale qu'il peut y avoir dans l'adoption, etc. Tout ça, ce sont des contributions qui sont extrêmement importantes, qui, à mon avis, ne suffisent pas à expliquer en soi le phénomène de l'adoption internationale. Je pense qu'il faut beaucoup d'autres éléments. Mais en tout cas, il faut prendre toutes ces contributions-là pour essayer de mieux comprendre le phénomène et puis peut-être de le faire un peu évoluer.
C'est
ça. Oui, et puis aujourd'hui aussi, au niveau de la société, il faut comprendre que adopter un enfant, ce n'est pas tout simplement sauver un petit Chinois, sauver un Africain. Il faut que les parents adoptifs aujourd'hui prennent conscience qu'ils ont un enfant qui a une double identité. C'est-à-dire avec le pays source et le pays d'accueil, il faut l'accompagner dans ces deux cultures et le voir évoluer. Si vous voulez des citoyens français adoptés qui ont une colonne vertébrale droite, il faut les accompagner comme il faut.
C'est ça. Avec une identité plurielle, une identité mixte. Et quand Yves Denecher parlait de ce rapport post-colonial, racisé, vous l'avez vécu, vous, Julie Sarah Flon.
Oui, bien sûr. Moi, j'ai grandi à la campagne. Donc, j'ai été très protégée du racisme. Enfin, par mes parents adoptifs qui avaient vraiment signalé... Enfin, j'avais des professeurs qui étaient quand même qualifiés à ce niveau-là. Mais je sais que, par exemple, quand à 18 ans, j'ai débarqué à Paris, j'ai eu enfin affaire à des personnes de la même couleur que moi, c'est-à-dire noires, et j'ai eu parfois vécu du racisme que je ne comprenais pas, parce que on m'a toujours éduquée en me disant mais t'es blanche, t'es comme nous, t'es pas comme les autres. Donc ça, il faut aussi faire très attention.
Et vous vivez comme blanche et noire.
Ah, aujourd'hui, je suis très fière. J'ai deux doubles cultures qui sont. Enfin, j'adore la France et j'adore l'Éthiopie. Donc, enfin, moi, je suis très heureuse d'avoir ces doubles cultures.
Vivier Trouville.
Je voulais insister sur le fait que aujourd'hui, justement, ces enfants qui maintenant sont des adultes forment des associations et font un travail absolument extraordinaire, mais souvent de manière très très isolée avec très peu de moyens. Ils font un travail notamment pour aider les personnes adoptées qu'ils souhaitent, parce que tous et toutes ne le souhaitent pas, à retrouver éventuellement leurs origines, y compris en faisant des démarches dans les pays d'origine, à travers des tests ADN, etc. Il y a une obligation des États, en droit international, non pas simplement d'aider ces associations, mais véritablement de procéder à la recherche des origines des personnes adoptées.
C'est ça, avec ces moyens génétiques qu'on n'avait pas à l'époque, voilà. Et qui sont aujourd'hui extrêmement...
Qui doivent être mis en œuvre, pas simplement par ces associations, mais aussi à travers l'État.
Après les détails, oui. Les chers.
L'État doit jouer son rôle, absolument.
Oui.
Donc là, en fait, on arrive un peu à la fin de l'émission. Et à votre question initiale, c'est-à-dire comment moraliser, réguler un peu plus, etc., bah, il faut déjà que l'État propose quelque chose sur la RDO, c'est-à-dire sur la recherche des origines. Quoi ? Comment ? Très, très concrètement. Parce qu'il y a quand même un enjeu très important. C'est que on est commencé avec, à à accueillir les grosses cohortes finalement de personnes adoptées qui sont arrivées dans les années 90, bientôt dans les années 2000, et c'était le maximum de l'adoption internationale. Donc, il n'y a pas simplement une question aujourd'hui, il y aura une question demain, mais demain, vraiment demain, pendant 10 ans ou dans 20 ans.
Yves Denecher, il y a un conseil national pour l'accès aux origines personnelles.
Mais qui n'est pas du tout outillé pour traiter de l'adoption internationale.
Il faut quelque chose de spécifique.
Il travaille très bien sur l'adoption des pupilles de l'État, donc il faut autre chose. Et c'est une fausse bonne idée que de dire le CNAOP va pouvoir s'occuper de ça.
Il faut des mesures
spécifiques. D'ailleurs, pour revenir sur la RDO, aujourd'hui, il y a quand même un commerce... RDO, la recherche des origines, il y a un commerce post-adoption qui est aujourd'hui présent. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le droit d'accès à nos informations. Et en plus de ça, nous devons payer pour qu'on puisse nous permettre de nous accompagner dans la recherche de nos familles biologiques.
Qui vous payez ?
Parfois, ce sont des particuliers qui viennent des pays sources, comme les pays d'accueil. Certains organismes d'adoption autorisés proposent des voyages maintenant qui facturent à des sommes qui valent dans les 3000 euros. Donc ça, c'est pour moi, je trouve ça honteux. Là, pour moi, la transaction d'argent doit rester sur l'adoption internationale.
C'est ça. Et ne doit pas entrer en ligne de compte. C'est le sens de la déclaration du 29 septembre.
Et c'était le deuxième point que je voulais ajouter. Donc, ça va tout à fait dans ce sens-là. C'est qu'il y a un enjeu important sur la manière dont va s'organiser la recherche des origines. Il va y avoir toutes sortes de tentatives et toutes sortes de charlatans qui vont proposer des choses parce qu'il y aura un business. Il y a eu déjà parfois un business dans l'adoption internationale. Il risque d'y en avoir un sur la recherche des origines. Donc il faut que l'État agisse fortement maintenant.
Et c'est le rôle du droit international, Olivier Trouville. On le sent très bien dans votre déclaration, de rappeler aux États leurs obligations, et notamment l'obligation de faire des enquêtes. L'État doit produire du savoir sur ces questions-là.
Oui, et puis c'est chaque État qui doit faire des enquêtes, créer des commissions, aider effectivement, voire mettre en place les techniques et les institutions pour la recherche des origines, mais aussi dans le cadre de la coopération internationale. Et il y a des obligations aussi pour les États de coopérer bilatéralement ou d'un point de vue multilatéral pour rechercher les origines des personnes adoptées.
Alors, cette émission, effectivement, approche son terme. Julie, Sarah Foulon, une mesure, une idée qu'il faut que les auditeurs gardent avec eux de ce qu'il faut faire.
De ce qu'il faut faire. Pour moi, aujourd'hui, l'heure n'est pas spécialement à la reconnaissance, mais l'heure est aujourd'hui à l'empathie envers les parents adoptifs, envers les adoptés, tout particulièrement envers les familles biologiques. Et aujourd'hui, il faut trouver une solution commune et l'État doit nous aider.
Se sentir concerné. Yves Denecher, même question.
Moi, je suis en train d'attendre avec beaucoup d'autres les conclusions de la commission d'inspection interministérielle.
Oui, mais c'est une inspection ministérielle,
qui est interministérielle, qui je pense a des ambitions aussi. Et donc je pense qu'à partir de ce moment-là, peut-être que va se dessiner un plan d'action en quelque sorte qui ira dans le sens de ce que Julie Sarah aussi a demandé.
Alors, moi j'ajoute à ça une initiative internationale. Je crois qu'une initiative sur le plan multilatéral, aux Nations Unies, est absolument nécessaire. Ça, c'est notre travail d'expert indépendant, mais il faut une initiative interétatique, de manière à faire en sorte que les États qui sont concernés coopèrent. On est effectivement face à un flux sud-nord. Et donc ça se joue sur le plan international, dans le cadre des Nations Unies.
Alors, Olivier Trouville, puisque vous avez la parole, vous, on n'a pas entendu votre choix musical, vous avez choisi une chanson en espagnol.
Oui, c'est une chanson qui a été fabriquée par un certain nombre d'artistes du Guatemala, qui ont en fait travaillé avec l'auteur du livre « Maman, je ne suis pas morte », Coline Fanon, Mariela Fanon, qui a été enlevée à sa mère à la naissance, volée à sa mère à la maternité, et qui a retrouvé ses origines. Et c'est une chanson, à mon sens, magnifique, parce que c'est à la fois la grande douleur, ce grand traumatisme que constitue l'adoption, le déplacement, mais aussi la résilience des victimes.
Eh bien, on l'écoute.
Escuchaba su voz aquí adentro, a través de los años fue más fuerte. La familia nada nos separe.
Merci à tous les trois pour cette discussion passionnante et en même temps qui montre la tâche qui reste à faire. Esprit de justice est terminé pour ce soir. À la technique, il y avait Timothée Hubert, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la préparation Sandrine Chaperon et Joseph Julien. Une émission d'Antoine Garapon.